qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on parle souvent d'agriculture biologique et de potager bio sur Radio Éthique, mais il y a vraiment des spécificités en Bretagne. Est-ce que ça vous a posé un problème pour aborder cet aspect-là du potager bio en Bretagne ?
Non, ça nous a pas posé de problème parce que c'était le principe du livre. Étant donné les spécificités climatiques et particulières du sol, il y a des problématiques qu'on trouve ici, qu'on trouve pas forcément ailleurs. Par exemple, des sols très lourds, très humides, des étés pluvieux pas très chauds, des hivers doux. Mm-hmm. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment ce qu'on voulait aborder pour avoir un guide du potager qui colle vraiment à la région, qui soit vraiment régional en fait.
Et ce qui est particulièrement sympathique, c'est que vous avez fait de très belles rencontres avec des jardiniers, ce que vous appelez des colibris en fait, des gens qui font leur part de la protection de la planète.
Exactement, c'est vraiment un livre de rencontres, c'est pas seulement un guide pour faire son jardin. On voulait vraiment montrer que malgré ce qu'on entend sur la Bretagne avec les algues vertes, les productions de cochons, de maïs, toutes ces choses-là qui sont pas forcément très bonnes pour la planète, il y a aussi des gens qui font leur petite part comme des petits colibris et qui œuvrent en silence dans leur petit coin de jardin et qui font aussi des très belles choses.
Alors, à partir de ces rencontres, pour un potager bio en Bretagne, donc, quelles sont les spécificités ? Vous nous disiez une terre particulièrement lourde et beaucoup d'humidité, par exemple.
Oui, une terre souvent lourde et argileuse, donc surtout dans les terres, très humide aussi dans les terres aussi. Sur la côte, ça va plutôt être une terre sableuse et puis souvent desséchée par le vent, donc avec encore d'autres problématiques. Et puis au niveau du climat, on a l'intérieur des terres qui est très pluvieux, qui peut être froid, même en été, surtout en été, même des étés frais, pas forcément très chauds. Et puis par contre, sur la côte là, on a un petit peu plus de chaleur également. Mais surtout au niveau du climat, je dirais, on peut avoir tout dans une journée, quoi. On peut avoir un petit rayon de soleil le matin, on se dit tiens, on va avoir une belle journée, et puis en fait tout l'après-midi on a du crachin. Donc on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. L'année dernière, on a eu des gelées en plein mois de mai, donc c'est assez capricieux en fait.
Alors vous avez obtenu des conseils de jardiniers bretons, ceux dont nous parlions tout à l'heure. Quels sont les grands principes qu'ils vous ont enseignés ?
Chaque jardinier qu'on a rencontré nous a parlé d'un thème en fait. Donc le premier, on a commencé bien sûr avec le travail du sol, savoir est-ce qu'il faut retourner la terre ou pas. Donc un des grands principes du potager bio par exemple, c'est qu'on ne retourne pas la terre. On la remue, on l'aère, mais on ne retourne pas la couche superficielle, sinon on a tout l'humus à refaire. Deuxième principe du potager bio, on laisse jamais une terre à nu par exemple. On doit forcément soit pailler en hiver quand on n'a plus de culture, soit on met un paillage, soit on met un engrais vert. Qui va retenir les sols et les minéraux pour éviter le lessivage des sols.
Pour éviter l'érosion et pour protéger le sol.
Ensuite, il y a d'autres grands principes comme la rotation des cultures. On ne va pas mettre deux années de suite, par exemple, des choux au même endroit parce que le sol va trop s'épuiser et puis les choux ne vont pas bien pousser la deuxième année. Ça vaut pour les oignons aussi. Il y a des légumes qui sont plus sensibles que d'autres à ça. Par exemple, les tomates ou les salades, on peut les remettre plusieurs fois à la même place.
Un lecteur qui se lance, il lit le guide du potager bio en Bretagne, donc il connaît les grands principes. Maintenant, il va se lancer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de produire ses graines, d'avoir une serre, de faire ses semis, ses plantations. Comment ça se passe ?
S'il commence tout juste son potager, il va commencer petit déjà. On va commencer par faire un petit jardin, de cultiver ce qu'on est capable de faire au début, quitte à grandir ensuite. Mais jamais commencer trop grand pour pas se décourager dès le début, je dirais. Et puis ça va commencer par le semis. Donc la première année, il faudra forcément acheter ou échanger des graines. Ça va commencer par des semis, des plantations. La serre, on a un chapitre dans le livre qui nous explique comment ça fonctionne une serre. Mais on a aussi un autre chapitre qui dit que jardiner sans serre, c'est possible aussi. Avoir des légumes en extérieur, on a vu en Centre-Bretagne des gens qui font pousser des tomates. Alors il y a des techniques, mais ça marche aussi sans serre. Puis il va falloir soigner son jardin, l'entretenir, donc le soigner bien sûr sans produits chimiques ou phytosanitaires, mais ça veut dire apporter de la biodiversité dans le jardin, ça veut dire mettre des fleurs qui vont attirer les pollinisateurs, mettre des nichoirs à insectes ou des haies qui vont attirer les prédateurs pour limiter les ravageurs, les petits rongeurs ou les limaces par exemple, des choses comme ça.
Donc c'est un livre qui se veut très pratique, vous donner des conseils de bon sens, mais aussi des conseils de grands principes de culture. Vous avez aussi des petits conseils si on est à pied d'œuvre maintenant, et s'il y a des maladies, vous avez aussi des possibilités donc de traiter de façon naturelle.
Alors ça, je dirais, c'est le seul chapitre du livre où on a souhaité un peu mélanger tous les jardiniers qu'on a rencontrés et on retrace en fait un peu tous les petits trucs et toutes les petites astuces que chacun nous a données. Par exemple, pour le mildiou sur les tomates, le mildiou se développe quand les feuilles sont mouillées. Donc, si on n'a pas de serre et qu'on veut faire des tomates dehors, on peut très bien faire des tomates dehors, mais par contre, il faudra leur mettre un petit toit, faire un petit abri pour pas que l'humidité ni la pluie touchent les feuilles. Donc ça, c'est un préventif, par exemple. Un autre exemple pour les limaces, on va protéger les jeunes pieds de courge ou de salade avec un petit pot percé en plastique qu'on va mettre autour au début quand on le plante, quitte à l'enlever après. Ça va protéger le plant des limaces qui adorent les jeunes pousses. Et puis, bien sûr, on va favoriser la biodiversité, comme je disais tout à l'heure, parce que plus il y a de vie dans un jardin, plus il est sain et plus il est équilibré. Et
après, vous parlez de, pour chaque plante, comment la cultiver, ses exigences, oui, le mode de plantation, et vous allez même après jusqu'à la production de graines pour l'année suivante.
Oui, alors ça nous tenait à cœur. Donc bien sûr, le fait de présenter chaque plante était quand même indispensable parce que pour faire son jardin, on a besoin de savoir quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on récolte, comment on entretient tel légume. Donc là, les calendriers de semis, de récolte, plantation sont vraiment adaptés à la Bretagne, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de retrancher ou d'ajouter des semaines par rapport à la zone de référence. Et puis, la production de graines nous tenait beaucoup à cœur parce que ça fait partie du cycle du jardin, en fait. Enfin, c'est le cycle de la vie, on sème, on fait pousser et on récolte les graines pour l'année suivante. Et finalement, c'est quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui. Les gens, enfin, c'est tellement facile d'aller acheter ces graines que les jardiniers se disent, c'est trop difficile, quoi, c'est pas à ma portée, alors qu'il y a des légumes pour lesquels c'est très facile.
Le guide du potager bio en Bretagne est paru aux éditions Terre Vivante.